2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Au nom de Jésus. Quant à moi, l'heure est arrivée où je vais être offert en sacrifice. Le moment est venu pour moi de mourir. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné, parce qu'il aime trop le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il pourra m'aider dans ma tâche. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre le forgeron a très mal agi à mon égard. Le Seigneur le paiera selon ce qu'il a fait. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à tout ce que nous avons dit. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié de sorte que j'ai pu pleinement proclamer le message et le faire entendre à tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Je vais vous poser une question un peu bizarre. Qui parmi vous présents aujourd'hui a déjà assisté à des personnes qui avaient des délires post-opératoires? Des familles qui, après une opération, parfois il y a des délires post-opératoires. Aucun? Ah, il y en a une là-bas. Deux. Il y en a quand même quelques-uns. Paraît-il que ces moments-là, le patient prononce des choses inimaginables. Peut-être l'effet de l'anesthésie, tout le subconscient qui se réveille tout à coup. Et parfois il y a des grands secrets qui sortent. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai l'impression que Paul était en train de délirer. Il a eu un choc, le monsieur, et il délire. On ne penserait pas que le grand Paul, celui qui a fait tous ses voyages missionnaires, pourrait prononcer des choses pareilles. Mais il l'a fait. Et on l'a retenu dans le canon, dans la Bible. C'est pour vous dire que même les grands hommes de Dieu, parfois, peuvent dire des choses qui ne correspondent pas à leur statut. Mais c'est ça l'homme de Dieu. Paul était au bout de son parcours terrestre. Il sait qu'il va mourir. Et non seulement qu'il va mourir, mais il sait que ce sera dans des conditions très difficiles. Une mise à mort qu'il attendait. Mais en plus de tout cela, il se sent très seul pour affronter ce moment difficile. Et cela a créé un choc. Et nous allons voir quel est ce délire de Paul du verset 9 à 16 que nous allons relire pour que vous puissiez bien comprendre. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné. parce qu'il aime trop le monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crésant est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il pourra m'aider dans ma tâche. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas. Tout à coup, il parle de son manteau. Chez Carpus, apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre le forgeron a très mal agi à mon égard. Le Seigneur le paiera selon ce qu'il a fait. Il appelle vengeance. Le Seigneur le paiera. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à tout ce que nous avons dit. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur tienne pas compte. C'est ça le délire de Paul. Il voulait avoir auprès de lui ceux qu'il pensait être les plus fidèles. Timothée, Luc et Marc. C'est un peu comme la personne, cette sensation de Paul, une personne dans le couloir de la mort, attendant le jour de son exécution. Et celui-ci veut avoir autour de lui un certain nombre d'individus qui vont l'accompagner vers cette mort violente. Et là, il est en train de paniquer. Où sont mes amis ? Je ne vais pas mourir seul quand même. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai donné à l'Église, mais où sont-ils ? Oui, j'ai dit qu'il me semble que Paul délirait, car tantôt il demanda à Timothée de tenir compte de l'attitude d'Alexandre le fendeur, qu'il soupçonne de l'avoir accusé. Dans ses dernières recommandations, il tenait à ce que Timothée puisse s'écarter de ce personnage. Tiens-toi loin de lui, parce qu'il m'a trahi. En quelque sorte, Paul fait sortir toutes ses colères enfouies et cachées depuis des années en lui, au verset 16. Tout sort. C'est un grand déballage, comme on dit. Et le verset 12, on a du mal à comprendre cette phrase. Pourquoi Paul tout à coup parle de son manteau ? Si on suit la logique, qu'est-ce qui se passe ici ? Apporte-moi mon manteau. Pourtant, il était en train de parler de quelqu'un. Donc vous voyez, dans sa tête, tout allait dans tous les sens. Paul délire à cause de sa solitude face à la dernière épreuve qu'il doit traverser. Et le fait de mentionner le manteau suppose, je dis bien suppose, que c'était au moment de l'hiver, d'après les commentateurs et les exégètes. Et il était très rude l'hiver, surtout à ce moment-là en prison, où les conditions de détention n'étaient pas encore celles que nous avons aujourd'hui. Mais à travers tout ça, Paul veut avoir auprès de lui ses proches collaborateurs. Et quand il mentionne ce manteau, c'est parce qu'il voulait de la chaleur humaine, qu'il voulait se sentir entouré, aimé pour une dernière fois avant de quitter ce monde. Cette histoire me rappelle le dernier moment que Jésus passait avec ses disciples à Gethsémané. Jésus était dans l'angoisse maximale, puisque le texte dit que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Et puis il se leva pour aller vers ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il voyait ? Ils étaient tous en train de dormir. Or lui à côté, il avait très peur. Et voici ce que Jésus leur a dit. « Vous n'avez donc pas été capables de veiller une heure avec moi ?» La moindre des choses que Jésus attendait de ses disciples, c'est qu'ils soient avec lui. Au moins ça. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes en train de dormir, de ronfler même. Oui, être avec celui qui souffre. C'est très important. Même si on n'emmène pas la guérison, c'est être avec cette personne-là. Ça compte, psychologiquement parlant. Ça compte même aussi sur le plan physique. Et ce n'est pas pour rien que le nom du Messie s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est près de nous dans toutes les circonstances. Et c'est ce que Paul avait comme consolation par la suite au verset 17. Il dit, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a revêtu de force. Vous voyez le style revêtu de force quand il parlait de manteau. Il m'a revêtu de force. C'est une métaphore extraordinaire. Étonnant, assister à cette situation. Je ne suis pas seul puisque le Seigneur est avec moi dans cette prison. C'était le message de Paul. Il se consolait lui-même. Il m'a revêtu, dit-il, même s'il faisait froid dans la cellule où il était. Chers frères et sœurs, comment croire que le Seigneur était avec Paul, son serviteur? Pourtant, extérieurement, il semble qu'il termine son parcours de façon critique, un peu abandonné des siens. Dans notre logique, c'est un grand homme de Dieu. Il aurait pu mourir avec une foule immense. Au moins, toutes les églises doivent être autour de lui. Mais non, le grand Paul mourait seul, avec quelques poignées d'individus. D'où une autre question. Est-ce que le fait de souffrir ou d'endurer des choses difficiles comme ce qu'a vécu Paul signifie que Dieu nous a abandonnés? Or, Paul lui dit, non, Dieu est auprès de moi. Je vois déjà ce qui m'attend. Non, Dieu est là, dans ces moments-là. Et c'est ce que la femme de Job a voulu faire croire à son mari, que l'Éternel l'avait abandonné. Pourquoi ne le maudis-tu pas? Nous avons parlé de cela lors de notre dernière étude biblique sur l'origine du mal. D'où vient le mal? Pourquoi le serviteur juste doit souffrir? C'est une question qui n'a pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui est encourageant dans notre péricope de ce matin, c'est le fait de trouver encore quelques personnes, pas si nombreuses, mais quand même qui restaient fidèles à Paul et au Seigneur. Qui sont-ils? Marc, Luc, Timothée, Crescent et Tite. Vous voyez, ce n'est pas nombreux, les cinq doigts de la main. Il ne restait que les cinq. Marc, rappelez-vous, au début, il était avec Paul et Barnabas. Mais après un certain temps, suite à une dispute entre Paul et Barnabas, puisque Paul ne voulait plus continuer le voyage missionnaire avec Marc, il y avait une dispute entre Paul et Marc. Et donc, il y avait une séparation. Chacun allait dans leur sens. Tandis que Barnabas l'a gardé avec lui. Et maintenant, c'est interpellant, à la fin de la vie de Paul, il a tout de même reconnu, le grand Paul a reconnu son erreur. Il a reconnu les qualités de Marc. Et il lui demande même d'être tout près de lui dans ces moments difficiles. Appelle Marc. C'est une sorte de mea culpa. Et il veut régler certaines choses avant de quitter le monde. Luc. Il participait aussi au voyage missionnaire de Paul avec Démas. Et si vous regardez bien les Actes des Apôtres, on retrouve souvent les traces qu'ils travaillaient en binôme. Luc et Démas étaient tout le temps ensemble. Il était en quelque sorte, Luc, le médecin traitant de Paul. Donc Paul ne voyageait pas tout seul. Et c'est aussi un historien. Et c'est pour cela qu'il a écrit les Actes des Apôtres. Et sachez-le, les Actes des Apôtres, c'est en quelque sorte le carnet de voyage de Paul. Et Luc, qui était en train de le suivre, en même temps, il le soignait quand il était malade, mais il prenait des notes. Et d'où la richesse que nous avons aujourd'hui, les Actes des Apôtres. Crescent. Cette personne, il n'y a pas d'explication sur lui. C'est un inconnu par rapport aux autres, mais il était ce qu'on appelle le coadjuteur de Paul, c'est-à-dire son second. Quelqu'un qui connaissait très bien Paul, et en tout cas, il lui a confié tout. Il faisait partie de son cercle restreint. Et enfin, Tite. Paul le considère comme son enfant, véritable, au même titre que Timothée, mon enfant. Voilà, ces personnes-là sont les seuls et vrais compagnons de route. C'est pour ça qu'on a choisi l'image des deux voyageurs sur le site de notre site internet et de notre page Facebook, qu'on avait choisi l'image, ces deux compagnons de route qui sont toujours ensemble. Et il en avait tellement, mais la plupart l'ont abandonné, comme le souligne Paul. Sommes-nous fidèles à accompagner jusqu'au bout nos frères et sœurs en Christ? Sommes-nous des facilitateurs ou le contraire? Parfois, nous ne le savons pas, mais on peut devenir un obstacle ou un frein d'épanouissement pour certains. Et là, il est clair, quel que soit le charisme de Paul, il avait besoin des autres pour mener à bien sa mission. Il avait besoin de Crescent, il avait besoin de Tite, de Marc et de Luc. L'appel que Paul a lancé est non seulement un appel au secours pour ses compagnons de route, c'est aussi une sorte de testament qu'il fait et qu'il transmet à ses compagnons de route. Il a senti au verset 6 que la fin pour lui est proche. Et son souci, c'est d'être rassuré que l'œuvre qu'il a commencée ne va pas s'éteindre. Mais pourvu que ses amis, depuis de longue date, puissent continuer le beau combat de la foi. Continuez, mes frères, le bon combat de la foi. Et je vais terminer mon sermon là-dessus. C'est un combat que nous livrons. Surtout ce mot « combat ». Pas contre le sang et la chair, mais contre les principats, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Alors, il nous faut unir toutes nos forces, peuple de Dieu et armée du royaume de Dieu. Amen.